Histoire du christianisme en France. Jean-Yves Delors et Michel Fauquier.
Bonjour Michel Fauquier.
Bonjour Monsieur Delors.
Nous avons parlé la semaine dernière de l'édit de Milan de 313, où le christianisme commence à avoir une certaine visibilité officielle. Et l'année d'après se tient en France, en Gaule, à Arles, un concile.
Oui.
C'est curieux.
Pas tant que ça, parce que on est donc en 314, et Constantin, comme je vous le disais, est habité de l'idée qu'il faut restaurer l'autorité de Rome. Elle a été profondément ébranlée par un partage du pouvoir qui a été quand même assez long, sous la forme de ce qu'on appelle la tétrarchie. Tétrarchie qui prévoit donc que deux augustes se partagent la direction de l'Empire en Occident et en Orient, avec un successeur désigné qu'on appelle un César, d'où tétrarchie, puisqu'il y a quatre, on va dire, empereurs de niveaux différents. Mais il se trouve que ce système va exploser très rapidement, du fait du départ de celui qui l'a fondé, en l'occurrence Dioclétien, et on va avoir jusqu'à parfois sept co-empereurs. Hein. Voilà. Donc il y a un désordre énorme dans l'Empire. Donc quand Constantin prend définitivement la tête de la totalité de l'Empire, après sa victoire sur Licinius à Andrinople, eh bien, il a l'intention de remettre les choses en l'ordre. Et ce qui est assez frappant, effectivement, c'est que bien avant sa victoire sur Licinius, dans la foulée de l'édit de Milan, il va déjà mettre la chose en œuvre en Occident. Et 314, c'est assez intéressant, c'est un concile de très très grande importance. Les conciles en Arles resteront toujours des choses importantes parce que l'Arles est une sorte d'interface entre la péninsule italienne, c'est-à-dire le cœur du pouvoir, et le reste de l'Empire en Occident, va réunir un nombre considérable d'évêques qui vont, à vrai dire, surtout célébrer le retour de l'autorité dans la partie occidentale et le fait que l'empereur est désormais chrétien. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit précisément de traiter des hérésies qui se répandent dans l'Empire depuis le IIe siècle, en gros, et d'y mettre une bonne fois, solennellement fin, par un acte majeur.
Mais là, ça prouve que le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont très liés. Enfin, c'est le Constantin qui réunit le concile.
Alors, en fait, c'est une tradition qui est évidemment très récente, parce que jusqu'à maintenant, les empereurs étaient les adversaires de l'Église, donc il était hors de question qu'ils aient part à l'affaire. Mais à partir du moment où Constantin leur donne les clés de la maison, d'une certaine façon, bien, nous parlions tout à l'heure du fait que, à partir de l'édit de Milan, les évêques vont entrer dans l'administration romaine de façon tout à fait officielle. Leur juridiction va être reconnue. Hein. Les fonctions presbytérales vont être reconnues, et un certain nombre d'autres choses à l'avenant. À partir de ce moment-là, l'Église est partie prenante du projet impérial. Et en fait, il y a une logique qui est extrêmement claire. Et vous pensez bien que pour une Église qui adore un Dieu unique et qui veut répandre une parole qui est une pleine autorité, le fait que l'empereur politiquement poursuivre un projet parallèle, eh bien cela l'intéresse au premier chef. Et d'une certaine manière, il y a une communauté d'intérêts entre les évêques et l'empereur à ce moment-là, qui se retrouvera jusqu'au bout, d'une certaine façon. Mais il ne faut pas croire que Constantin dirige le concile d'Arles. Ça n'est même pas lui qui fixe le programme du concile. Et certainement pas ses décisions. Il se définira lui-même, lors du fameux concile de Nicée, comme évêque de l'extérieur. C'est la façon dont il se désigne lui-même. Il est l'évêque de l'extérieur, l'épiscope de l'extérieur, c'est-à-dire celui qui veille sur l'Empire romain, et les évêques, eux, sont les évêques de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui veillent directement sur l'Église chrétienne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un partage des tâches qui est extrêmement clairement établi entre les deux.
Intéressant. Mmh. Et alors donc, ce concile d'Arles va aborder des sujets très précis, d'hérésie, de...
Alors, en particulier, il va s'intéresser à la fameuse question des donatistes, c'est-à-dire d'une affaire qui est centrale et déterminante, qui est la question de savoir, au fond, qui est sauvé. Et ça, c'est un problème très important. La question ne s'est pas posée sous ces termes-là, mais lors des grandes persécutions du IIIe siècle, un certain nombre de chrétiens ont renié leur foi. On les appelle les lapsis. D'autres, ce sont cette fois-ci des clercs, ont accepté en signe de soumission de remettre aux autorités romaines un certain nombre d'objets symboliques, des bibles, des livres liturgiques, des calices, des ciboires, vous voyez, ce genre de choses, pour montrer leur pleine soumission à l'autorité, et on les appelle des traditores, d'où viendra notre mot traître.
Oui.
Voilà. Bon, alors il y a ces traditores, il y a ces lapsis, et la question est, sont-ils damnés? Sont-ils définitivement perdus ou non? Les donatistes refuseront de les réintégrer dans l'Église. On les appelle, ils ne s'appellent pas eux-mêmes donatistes, ils ne sont pas donatistes à l'origine parce que Donna est un personnage qui vient un peu plus tard dans cette histoire, mais disons que c'est la grande figure de cette hérésie qui postule que celui qui a renié le Christ, que celui qui l'a trahi, au sens que nous donnons au mot traditoire actuellement, eh bien, ne peut plus être considéré à jamais comme un chrétien.
Finalement, ce sont des questions quand même actuelles.
Questions très graves. Et l'Église va en fait se prononcer dans le sens contraire et dire que ces gens ont le droit, dans un premier temps, on est prudent, ne serait-ce que du fait de la pression donatiste, d'être réintégrés au moins une fois. Ils ont une chance, on leur donne une chance. Et ça change complètement, si vous voulez, la conception de l'Église. L'Église dit qu'elle n'est pas l'Église des purs. Elle est l'Église des pécheurs. Et ce problème est un des problèmes centraux qui va être traité, parce qu'on cherche à refaire l'unité de l'Empire. Vous comprenez que si on commence par dire on fait cette unité en effectuant un tri entre les chrétiens qui sont des citoyens désormais officiers de l'Empire, on bâtit une forme d'empire qui est très différente de celle qu'imaginent les donatistes, qui imaginent plutôt un empire des purs.
Merci beaucoup Michel Fauquier. Nous continuerons la semaine prochaine à parler du Concile d'Arles.